This is Bradley Sinalis. You're listening to Pop Pop Pop. Pop Pop Pop, c'est parti.
Pop-popienne, pop-popien et tous les autres aussi, bonjour. Par temps clair, avec un ciel dégagé, si l'on se poste sur les blanches falaises de Calais, au nord-ouest de la France, on peut apercevoir de l'autre côté du bras de mer qui nous en sépare, les contours d'une île étrange, la Grande-Bretagne, qui à première vue ressemble à s'y méprendre, à notre bon vieux continent, mais ce n'est qu'une illusion, car pour en être proche, cette île-là n'en est pas moins lointaine. Pour commencer, il faut savoir qu'elle jouit, je ne sais pas si c'est le bon mot, d'une météo particulière, comme si un jardinier farceur avait choisi de la faire bénéficier d'un microclimat particulier en bloquant sur max la fonction arrosage automatique. Oui, il y pleut presque constamment, ce qui pousse les indigènes qui peuplent l'île à se réfugier dans ce qu'ils appellent des pubs où, sans doute pour compenser les inconvénients d'une humidité excessive, ils inondent méthodiquement leur organisme d'un breuvage à base de houblon qui gonfle leur estomac et leur faire perdre la tête. La tête, mais pas leur flegme, ce qui les différencie pour toujours de nous autres latins, toujours prompte à nous enflammer ou à enflammer tout ce qui est susceptible de prendre feu. Un flegme, poussé parfois jusqu'à l'absurde, comme lorsqu'il s'était mis à chanter « Plus près de toi, mon Dieu » sur le pont du Titanic, alors que le vaisseau s'enfonçait dans les flots. Heureusement, ils ont un écrivain qui, grâce à ses romans fracassants d'intelligence et de drôlerie, nous permet d'approcher cette psyché qu'il n'est pas abusif de qualifier d'extraterrestre puisqu'elle est bordée par des liquides de toute nature. Cet homme exceptionnel, c'est Jonathan Coe, et il est aujourd'hui l'invité de Pop Pop Pop.
France Inter. Pop, pop, pop. Antoine de Paule.
Bonjour Jonathan Coe.
Hello.
Bonjour.
Very nice to be here.
C'est super d'être là.
Et welcome dans notre studio. À mes côtés, welcome. Celle qui, elle aussi, vient d'une région très arrosée, la Picardie. Charline Roux.
Cheers, dans ce cas. Bonjour.
Au menu également de Pop Pop Pop, Benjamin Carl, le réalisateur du doc Meilleurs Ennemis, ma relation avec la perfide Albion, un doc diffusé sur Canal+, dans le cadre de la semaine spéciale Angleterre. Mais avant tout cela, Jonathan Coe, ici, il existe une question encore plus trash que du vin anglais, et cette question, c'est... pour vous, Jonathan Coe, c'est quoi la pop culture? Alors, pour être totalement honnête, j'ai eu des réponses angliciseuses, jonathaniennes, coco-coétives et même coco-coricotes. Et parmi mes préférées, il y a celle de Jonathan Coe, N.
C'est la culture de maintenant. Mm-hmm. Je trouve que c'est la culture du présent. Mm-hmm. La culture des gens, c'est spontané, c'est... s'il y a parfois de la vision, parfois c'est de la vision à court terme, à moyen terme, ça dépend, c'est des visions de la société, c'est tout ça en même temps.
Bien, voilà pour Jonathan Cohen et pour vous Jonathan Coe. What is pop
culture? Well, I agree with Duke Ellington who said
je suis d'accord avec Duke Ellington qui disait qu'il y avait deux sortes de musique, la bonne et la mauvaise.
The older I get, and I'm getting pretty old now,
plus je vieillis et je suis assez vieux maintenant, je vois vraiment plus de différence entre la bonne culture et la mauvaise culture.
Je n'utilise
pas de mots comme la culture trash, non. Je trouve ça un peu élitiste. Et selon mon humeur, je suis content de lire Tolstoy, de regarder un vieux film de Tarzan. Vraiment, c'est ça mon goût, c'est ça tout à fait mon goût.
Très amusant parce qu'en fait ça recroise tout à fait la définition que nous en a donnée Bret Easton Ellis il y a quelques jours. C'est exactement ça, en fait il y a un mélange complet dans les cultures aujourd'hui.
Yeah, yes, an absolute mix, and a lack of pretentiousness, which is the
le manque de prétention, c'est ça surtout que je déteste en fait dans toute forme d'art.
Eh bien voilà une émission qui démarre très bien à mon goût et au vôtre, Charline.
Tout à fait, Antoine.
Merci. La pop, la culture et la pop culture. On va en parler dans la suite de Pop 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 juste après un morceau de celui qui a dit.
Bonjour, je suis la reine d'Angleterre et je vous chie à l'arrêt.
Voilà, c'est la reine d'Angleterre et elle nous chie à l'arrêt donc. Mais cette reine d'Angleterre vient de sortir un nouvel album dont on écoute un premier extrait.
J'aime être stone avec toi, j'aime être stone.
Imagine un monde où les animaux nous mangeraient. Ils feraient des ragoûts de nous, des soupes de nous, des
chiens n'ont pas besoin d'apprendre à nager. Pourquoi, pourquoi, pourquoi? Est-ce que c'est parce qu'ils n'ont jamais su oublier? Pourquoi, pourquoi, pourquoi? J'aime être stone avec toi. J'aime être stone avec toi. J'aime être stone avec toi. J'aime être stone. J'aime être stone avec toi. J'aime être stone avec toi. J'aime être stone avec toi. J'aime être stone. Imagine l'homme que les femmes poursuivent dans les rues, réclamant la vite et le cul, mais rien de plus.
Tu m'as vu?
Tu m'as vu?
Tu m'as vu?
Nu. J'aime être. Pourquoi ma main tient dans ta main et qu'elle se sent bien? Pourquoi, pourquoi, pourquoi? Pourquoi ma main tient dans ta main et qu'elle se sent bien?
Philippe Catherine Stone avec toi, cet extrait de son tout nouvel album Stone avec toi. Vous écoutez Pop à Pop, l'émission de pop culture de France Inter, ou plutôt l'émission qui traite la culture de façon... Et nous sommes aujourd'hui avec un Jonathan qui pèse dans la pop culture. Mais s'agit-il de Jonathan Cohen, de Jonathan Livingston, de Jonathan Coe, ou bien de ce Jonathan?
Est-ce que tu viens pour les vacances?
Non. Je ne pense pas.
Réponse avec son pop portrait. Alors oui, son pop portrait, ben, c'est son portrait bien sûr, mais...
À base de pop, 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 pop.
Et il est signé Charline Rerou.
Aujourd'hui, un invité qu'on a très envie de kidnapper, histoire de s'assurer de sa présence régulière à nos côtés, car ce trésor national, certes pas le nôtre, pourrait dans les jours qui viennent avoir quelques soucis de lourdeur administrative pour parvenir jusqu'à nous. C'est en partie ce qui l'amène aujourd'hui. Notre invité s'interroge sur la nature profonde de sa nationalité. Qu'est-ce que ça signifie au juste être anglais? La question est posée, et ce depuis maintenant quelques années, que ce soit dans Testament à l'anglaise ou encore dans Bienvenue au club et le cercle fermé. Alors si on nous demande à nous ce que signifie être anglais, on répondra être plus drôle, plus stylé, plus tristement lucide, moins politiquement correct que le reste du monde. Réponse circonstanciée d'amoureuse de l'Angleterre qui ne suffirait sans doute pas à faire un bon roman. Heureusement pour nous, on peut compter sur notre invité pour écrire et témoigner ce qu'il a fait admirablement dans le cœur de l'Angleterre qu'il est venu nous livrer sur un plateau.
Mm-hmm. Vous êtes prêt à vous laisser kidnapper, Jonathan?
You're ready to be kidnapped by us.
Yeah, that sounds very agreeable.
Ah, mais oui, ça me semble très très agréable comme perspective.
Eh bien, on va essayer que ça reste agréable jusqu'au bout. Jonathan Cohen, il y a une chose que les Anglais n'ont pas dans la pop culture, c'est mon mixeur de pop culture. Et venez, je vais vous le montrer. Nous vous avons demandé de choisir, Jonathan Cohen, un livre, un film, une musique et une série culte. Pour le livre, vous avez choisi Le troisième policier de Flann O'Brien, écrit entre 1939 et 1940 et paru en 67 à titre posthume. Un polar métaphysique, irlandais, salué à sa sortie par James Joyce, mais refusé par les éditeurs du vivant de l'auteur. Mais quelle est donc cette chose étrange, Charline?
Une chose étrange, Antoine. L'histoire d'un jeune homme à jambes de bois qui tue un vieillard, mais qui, la nuit suivant le meurtre, échange avec ce dit vieillard des considérations sur la force du refus, tout en se disant que c'est quand même bien dommage d'avoir trucidé un homme aussi sympathique.
Jonathan Coe, auriez-vous l'amabilité de nous en lire quelques lignes, s'il vous plaît?
Yes, I will read. I think these are the opening sentences.
Je crois que c'est le tout début, d'ailleurs, du roman que je vais vous lire.
Which should really be read in an Irish accent, but
avec un accent irlandais.
We'll have them in an English accent.
Mais on va le faire avec l'accent anglais.
Not everybody knows how I killed old Philip Mathers, smashing his jaw in with my spade. But first, it is better to speak of my friendship with John Divney, because it was he who first knocked Old Mathers down by giving him a great blow in the neck with a special bicycle pump, which he manufactured himself out of a hollow iron bar. Divney was a strong, civil man, but he was lazy and idle-minded.
Très bien. Une petite traduction rapide, s'il vous plaît, Harold.
Tout le monde ne sait pas comment j'ai tué le vieux Philip Mathers. Mais d'abord, il faut parler de mon amitié avec John Divney, car c'est lui qui a liquidé Mathers par un grand coup de pompe à vélo dans la gueule, une pompe qu'il avait faite lui-même avec une barre de fer.
Bien. Extrait donc du troisième policier de Flann O'Brien, le choix de Jonathan Coe pour le livre de sa pop-liste. Flann O'Brien est considéré par ses pairs comme l'écrivain irlandais le plus irlandais de tous les temps. Est-ce que c'est un point de vue que vous partagez?
Yes, his humor,
ah oui, son humour est tout à fait irlandais. Et je vois bien que vous m'avez invité ici comme l'ambassadeur de l'anglicitude, alors que trois de mes choix culturels ne sont pas britanniques. Bon, on va reparler. Vous savez, les Anglais ont un rapport très problématique avec les Irlandais. Une relation qui devient de plus en plus difficile à ce jour à cause du Brexit. Et je me sens, là, un petit peu mal à l'aise d'avoir choisi un écrivain irlandais, alors que j'ai toujours adoré Flann O'Brien. Ses romans sont drôle, comique, absurde. Et ça, celui-là commence par un meurtre très violent. Un meurtre causé par une pompe à vélo. Les pompes à vélo sont très importantes dans ce roman.
Très bien. Jonathan Coe, pour le film, vous avez choisi donc autre chose qu'un produit anglais, hein, un film français, Les Demoiselles de Rochefort, réalisé par Jacques Demy et sorti en 67. Un demi, c'est moins qu'une pinte. Hein. Est-ce cela la tempérance légendaire de Jonathan Coe qui le pousse à faire ce choix, Charline?
Oh, j'en doute, Antoine, mais je salue votre esprit, vous pourriez être anglais. Les demoiselles en question sont Delphine la Blonde, qui donne des leçons de danse, et Solange Larousse, des cours solfège, et les deux attendent avec la même impatience le grand amour.
Nous sommes deux sœurs jumelles, nées sous le signe des Gémeaux. Mi fa sol la mi ré, ré mi fa sol 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 ré do. Du plomb dans la cervelle, de la fantaisie à bobo. Mi fa sol la mi ré, ré mi fa sol 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 ré do.
Je crois pas un instant que mon explication de demi et de pinte hein, rentre pour quoi que ce soit dans votre choix. Qu'est-ce qui vous a poussé à choisir Les Demoiselles de Rochefort, Jonathan Coe?
Les
gens sont toujours surpris quand je parle de ce film, parce que mes romans ont une dimension politique, parlent de questions sociales, ils pensent que je vais parler de Ken Loach au cinéma, très sérieux. Pour moi, ce film, il est plein de joie, de légèreté et de lumière. C'est comme Mozart en film. Et puis, François Truffaut, votre autre grand réalisateur, a dit une fois que le cinéma anglais, ça n'existe pas, parce que les Anglais ne font pas vraiment des films. Quand je vois Les Demoiselles de Rochefort, quelque part, je vois ce qu'il voulait dire. Il y a une légèreté cinématographique, une joie de faire du cinéma. Je ne crois pas qu'on trouverait ça dans aucun film anglais. Ou peut-être les films de Michael Powell, peut-être. Le seul auquel je puisse penser.
Parfait. J'ai un livre, j'ai un film. Il me faut maintenant une série. Et ben on va continuer cette French Touch avec la série, car vous avez choisi Call My Agent, ou plutôt 10%, la série créée par Fanny Herrero et Dominique Besliard, diffusée sur France 2. Un Anglais qui choisit une série française. Charline, n'est-ce pas pousser la francophonie un peu loin?
La francophilie, vous voulez dire?
Folie.
D'accord, ok. On part en festival. Non, car c'est une excellente série qui relate le quotidien de quatre agents de comédiens dont la vie n'est vraiment pas un long fleuve tranquille.
Pour les 30 ans d'Alaska, on fait quoi? On ferait pas une grosse fête?
Ça fait 10 ans que j'ai toujours le meilleur chiffre d'affaires de l'agence.
Ouais, sauf qu'un du jardin égale deux canets.
Bah non, t'as pas des copains à me présenter?
Alors si, justement, parce que je suis aussi agent matrimonial, donc qu'est-ce que tu cherches exactement?
Juste un mec normal.
Ça va, Monica?
Tu remarques rien, là?
Tu te drogues?
Mais non, Gabriel.
Je cueille des carottes, et surtout, il y a l'homme de ma vie, Jésus.
Je fais quoi? Je vous offre un verre? Il prendra quoi, votre ami?
Oui. 10%.
Jonathan Coe, un Anglais qui choisit une série française, donc. Et là, vous ne pouvez pas me le faire le coup du cinéma, hein, comme avec Les Demoiselles de Rochefort, ça ne marche pas. Vous avez d'excellentes séries en Angleterre.
Well,
Je dois vous dire que je ne connais pas tellement la télévision française. Et ce serait difficile pour moi de nommer une autre série française. Cependant, il y a 18 mois à peu près, il y a une année, on m'a présenté Camille Cotin. C'est Julie Gaffin qui m'a présenté. Et elle a un rôle dans 10%. Et elle m'a dit, il faut que tu regardes. J'étais un peu sceptique. Mais je dois dire qu'on n'a pas d'équivalent, nous, en Grande-Bretagne. Une série qui soit chaleureuse, drôle, un peu sérieuse en même temps. Une série qui commence pas avec un meurtre d'une jeune femme, par exemple, et qu'un pathologiste examine son corps. Quelque chose de léger, de chaleureux dans notre monde. Je suis vraiment acheteur. Et puis il y a toutes ces vedettes du cinéma français qui y font des apparitions.
Alors sur le même modèle, en Angleterre, vous avez eu Extras de Ricky Gervais.
Oui, c'est vrai. Mais il y a quelque chose de, pour moi, trop ironique en comparaison avec 10%. Je trouve que Extras, c'est moins humain, en fait. Et 10%, je trouve ça plus on y croit plus parce que c'est humain.
Bien, pour clore cette pop-liste, il me manque une chanson. Et bien, la chanson que vous avez choisie, c'est Get It On de T-Rex, sortie en 71 sur l'album Electric Warrior. Jonathan Coe, auriez-vous l'amabilité de nous en chanter un extrait ?
I really couldn't do that.
Ah non, ça, c'est pas possible.
If you gave me guitar,
si vous m'avez donné une guitare, je pourrais jouer le riff de guitare.
I'm happy to do that, but
ça, je peux.
I have a reputation to preserve.
Mais j'ai une réputation, une bonne réputation en France. Je veux la garder, je veux que les gens achètent mon bouquin. Okay, j'ai pas envie de chanter là. Parce que vraiment, là, finalement, je suis ruiné.
Ok, bah on va se contenter de l'original. Alors Jonathan Coe, on vous sait mélomane et musicien, vous avez même enregistré deux albums. On sait aussi que vous avez un faible pour ce qu'on appelle le rock progressif, le prog rock. Qu'est-ce que T-Rex représente pour vous, qui est plutôt glam quand même?
T-Rex was really my first musical passion.
T-Rex a été vraiment ma première passion musicale.
This song came out in 1971.
Je crois que c'est en 71, effectivement, que c'est sorti. Je devais avoir 10 ans.
I just worshipped Mark Bolan.
Et je vénérais Mark Bolan.
This was one of the greatest songs ever written.
C'était vraiment une des plus grandes chansons pour moi qui était écrite. Son œuvre me fascine toujours. Vous savez qu'il est mort très peu de temps. Il avait 20 ans et quelques après l'enregistrement de ce disque. Je ne sais pas pourquoi T-Rex me fascine. Je
ne
sais pas si ses paroles peuvent être traduites en direct par Harold. Harold répond non. Mais ce qui me revient quand même à ce jour, c'est dans Hot Love
She ain't no witch, but I love the way she twitch.
She doesn't know which, but she.
You can't trust
non, c'est difficile à traduire.
It's absolute nonsense, but
ça n'a pas de sens, en fait. Mais il y a une poésie là-dedans. Je me rappelle, il a aussi écrit Deborah, il faisait rimer avec Zebra.
It's beautiful, really.
C'est beau.
Très bien. Eh ben, j'ai tout ce qu'il me faut, moi. Je résume donc le troisième policier, Les Demoiselles de Rochefort, 10% et T-Rex. Je mets tout ça dans mon mixeur de pop culture et ça donne ça.
Tu te drogues ?
Nous sommes deux sœurs jumelles.
Not everybody knows how I killed old Philip Mathers, smashing his jaw in with my spade.
Mais dis-moi le cas.
Je fais quoi? Je vous en parlais? Il prendra quoi, votre ami?
10%.
Qu'est-ce qu'il va encore, celui-là?
Et voilà ce qu'il y a dans la tête de Jonathan Coe. Aujourd'hui, ce lundi 23 septembre 2019.
Quand on met tout ça ensemble, hein. Je ne m'en rendais pas compte. Je ne savais pas que vous alliez dessiner un portrait aussi franc et intime de mon intimité.
Non, tout va bien, ça ne m'effraie pas du tout, au contraire. Je me sens en terrain de connaissance. Jonathan Coe, on va parler de Brexit, de pop culture et d'Angleterre dans la suite de Pop Pop Pop. Et puisque nous sommes en Angleterre, restons-y avec le nouvel album de la divine Chrissy Hynde. L'album s'intitule Valve Bone Ho, je ne sais pas ce que ça veut dire, et le morceau How Glad I Am. Et moi donc.
No beginning, my love has no end. No front or back, my love won't bend. I'm in the middle, lost in a spin. Love and you. And you don't know, you don't know, you don't know, you don't know. No bottom, my love has no top. My love won't rise and my love won't drop. I'm in the middle and I can't stop. Loving you. And you don't know, you don't know. My love wider than wide. I'm in the middle and I can't hide. Love and you. And you don't know, you don't know, you don't know. We'll be right back.
France Inter. Pop, pop, pop. Antoine Decaune.
Et Charlene Roux.
Jonathan Cole, le cœur de l'Angleterre dans la lignée de Testament à l'anglaise, de Bienvenue au club et de Cercle fermé, est à nouveau un roman qui fait le point à travers les destins entremêlés d'une famille anglaise et de l'Angleterre. A State of a Nation novel, comme disent vos compatriotes. Et cela même si vous aviez dit, il y a quelques années, vouloir prendre vos distances avec la politique. Est-ce que ce sont les charmes du Brexit qui vous ont fait changer d'avis?
Le
point de départ de ce roman, c'était pas la politique.
C'était
les personnages.
Et
le besoin que j'ai ressenti à la cinquantaine de revenir à ces personnages que j'avais quittés 20 ans plus tôt. Mais il me fallait trouver une histoire à raconter. Et naturellement, c'était l'histoire de mon pays et ce que mon pays a traversé ces dernières années. Alors je me suis retrouvé à écrire une histoire sur le Brexit. Sans vraiment en avoir eu l'intention. C'est quelque chose qui vraiment, en Angleterre, a été très turbulente et très, très perturbante. Et ça a été comme une thérapie, en fait, d'essayer d'écrire dessus, d'essayer de trouver, à comprendre moi-même, à arriver à comprendre moi-même cette décision étrange que nous avons prise.
Le titre de votre roman en VO est Middle England et la VF, c'est Le cœur de l'Angleterre. Est-ce que ce titre français vous sied ?
Si j'aime le titre français.
Oui,
je l'aime beaucoup. On en a beaucoup discuté, on a parlé d'autres titres.
Je
choisis toujours des titres très punchy, très simples en anglais. Et puis, bien sûr, les éditeurs étrangers me disent qu'ils ne sont pas traduisibles. Par exemple, voilà, Water Carve Up s'appelle en anglais Testament à l'anglaise. Et Water Carve Up, c'est super, super, ça marche bien en anglais. Ça vient d'une comédie des années 60 et ça marche bien. Mais ce titre-là, il était complètement impossible à traduire. Même en Amérique, on ne peut pas le traduire. Et ça s'appelle The Windsor Legacy en anglais. Pour l'Amérique, je veux dire. Middle England, c'est une phrase qui a une expression qui a une résonance particulière en Grande-Bretagne.
Ce
n'est pas tellement un lieu en Angleterre que ça. C'est un état d'esprit insulaire, si vous voulez. Quelque chose que l'on retrouve dans le journal, par exemple, The Daily Mail. Ça n'a pas la même signification en français, c'est vrai.
L'Angleterre profonde, which was another title we thought about.
Et on a pensé à d'autres titres en français qui allaient avoir d'autres résonances en France. Le cœur de l'Angleterre, c'est une bonne solution.
Les lecteurs, vos lecteurs, Jonathan Coe, retrouveront avec plaisir les personnages dont ils avaient pu faire connaissance il y a 18 ans avec Bienvenue au Club. Ne seriez-vous pas, Jonathan Coe, en train de nous concocter, sans en avoir l'air, une petite recherche du temps perdu?
Quiconque qui écrit un roman en fleuve, finalement avec des personnages récurrents, quelque part on évoque Proust, oui. Je veux dire que les gens qui viennent à mes livres en attendant l'ambiance proustienne et la langue proustienne, là ils vont être un peu avoir un choc. Ce sont quand même deux univers littéraires assez différents. Mais je suis venu, moi, à Proust, par un chemin biscornu. Un scénario d'Harold Pinter, qui voulait faire un film réalisé par Joseph Losey dans les années 70, scénarisé par donc Harold Pinter. Et Pinter avait réussi à distiller un scénario, toute cette histoire, cette longue histoire, en un scénario. Et ça a été vraiment, finalement, mon petit guide pour Proust, à travers Pinter.
Est-ce que vous avez dû relire Bienvenue au Club et Le Cercle fermé pour savoir où et quand vous aviez laissé la famille Trotter ?
Relire mes romans, c'est la torture. Je ne peux vraiment pas. Non.
Et c'est étrange parce que,
vous l'avez dit, j'écris de la musique aussi, qu'on peut entendre sur Spotify, et personne n'aime ma musique. Les gens adorent mes bouquins, mais ma musique, personne. Moi, j'adore ma musique, j'aime bien. Je l'écoute de temps en temps, même sans fin. C'est la seule chose que j'écoute sur Spotify. Mais lire mes propres bouquins, c'est physiquement une douleur.
I skimmed through the Rotters Club and the Close Circle.
Donc je suis passé à peu près. J'ai vraiment relu rapidement pour retrouver les personnages, retrouver la chronologie, l'âge des personnages. Mais j'ai pas lu dans le détail, non. Ce serait trop dur.
Vous avez tort, c'est hyper bien.
It's a shame because it's a good, they're good books.
Oh, thank you.
Merci.
Vous avez aussi, entre deux, écrit des livres comme La Maison du Sommeil ou La Pluie avant qu'elle tombe, qui relèvent du roman plus classique. Qu'est-ce qui vous déclenche dans le choix d'un livre que vous allez écrire?
I guess if you look back on my books in sequence, then
si on voit mes bouquins en ordre chronologique, finalement chacun est une réaction par rapport au précédent. Si j'écris un livre politique, le suivant sera introverti, personnel. Donc voilà. Testament à l'anglaise est suivi par La Maison du Sommeil. Et il est suivi lui-même par La Pluie avant qu'elle tombe. Et là, je vais commencer un bouquin sans Brexit, sans politique. Un livre complètement sur moi et sur ma retraite en dehors du monde.
Vous dites « faire de la musique est une pure passion, tandis qu'écrire des livres est une passion qui mélange plaisir et douleur ». Alors, en quoi l'écriture du Cœur de l'Angleterre a été un plaisir ? En quoi a-t-elle été une douleur ?
Il y avait moins de douleur quand même, je pense, en écrivant ce livre que dans tous mes romans précédents. J'étais frappé par une remarque de Billy Wilder qui disait que ses films les plus lumineux étaient les plus difficiles, les plus durs à mettre au monde. Et que Certains Lames Chaudes, ça avait été l'enfer pour lui. Et que Sunset Boulevard, ça avait été un grand plaisir, alors que c'est une histoire tragique.
The Rain Before It Falls, for instance, which is a very melancholy book.
Si on prend La Pluie avant qu'elle tombe, c'est un livre très mélancolique. Et il m'a fallu beaucoup de temps.
All I can say about Middle England is that it came very easily and very
spontaneously, which I can only think is because ce roman, Le Cœur de l'Angleterre, s'est venu assez spontanément parce que j'avais les personnages en tête. Je n'avais pas créé de nouvelles silhouettes. Et donc ils étaient là, ils m'attendaient.
Comme toujours dans vos livres, Jonathan Coe, Le Cœur de l'Angleterre est un doux mélange de satire et d'humour, teinté d'absurde. Alors, puisqu'on parle de Brexit, ne trouvez-vous pas que l'ascension d'un Boris Johnson montre les limites de l'humour anglais ? Personne n'a pris Johnson au sérieux, tout le monde le prenait pour un bouffon, et le voilà Premier ministre. En fait, est-ce qu'il faut se méfier de l'humour anglais ?
Mon attitude sur l'humour britannique a beaucoup changé depuis 5 ans.
And Boris Johnson
en est grandement responsable. Quelqu'un m'a demandé l'autre jour pourquoi il n'y a pas de satire qui de la gauche en Grande-Bretagne. Et je pense que Boris Johnson en est la réponse. Il est un satiriste. Il était le correspondant à Bruxelles pour le Daily Telegraph dans les années 90. Il a écrit une série d'articles où il traitait à la blague toute l'Union européenne. Il disait que c'était tous des cons et tous des et c'était absurde comme système. Et le public britannique a adoré ça. Et ces chroniques ont finalement formé notre attitude envers l'Union européenne. Donc, si les gens vous demandent qui a de l'influence en tant que satiriste, eh ben c'est Boris Johnson qui a eu de l'influence ces dernières années. Le fait qu'il soit aujourd'hui Premier ministre, c'est le genre de fin d'histoire que je trouve dingue. Voilà.
Dans une interview très récente au Guardian, à la question « Pourquoi les Français sont-ils si sensibles à votre œuvre ?», vous avez répondu, je cite, « Les Français aiment l'humour anglais, ou en tout cas ce qu'ils pensent être l'humour anglais, qui a probablement plus à voir avec ce qu'il était cet humour dans les années 70. » Alors, est-ce que ça signifie que les Anglais ont perdu un peu de leur humour ou que les Français n'ont vraiment pas bien fait leur mise à jour ?
Ça, c'est une question difficile. Toujours, on demande pourquoi mes bouquins se vendent si bien en France. Et sincèrement, je ne sais pas les raisons. Il y a quelque chose, peut-être, sur l'humour britannique qui reste quelque chose de vibrant. Pas seulement en France, mais dans tous les pays que je connais, l'Italie, la Grèce. C'est peut-être le fait que les Britanniques prennent leur littérature très au sérieux. Les romans humoristiques comme le mien jamais ne gagnent de prix. Et on a cette tradition d'humour, P.G. Woodhouse, David Lodge, Tom Sharp, des gens comme ça. Mais l'établissement, la culture officielle britannique ne les accepte pas vraiment. Pourtant, le sens de l'humour britannique, c'est vraiment notre grande valeur d'exportation. Et est-ce que les Français aiment toujours Benny Hill, d'ailleurs?
Ceux qui le connaissent, oui. Ça s'appelle Le cœur de l'Angleterre. C'est un roman exceptionnel pour comprendre ce qui se passe en Angleterre en ce moment et simplement pour goûter les joies de la grande littérature, car on parle de grande littérature ici. Merci Jonathan Coe. Ne bougez pas, ne bougez surtout pas. Nous, on a pour finir avec vous. Vous savez faire plein de choses, on l'a compris. Vous êtes musicien, vous êtes écrivain. Est-ce que vous savez faire ça?
No, that's not one of my talents.
Ah non, ça, ce n'est pas possible. Ce n'est pas dans mes talents.
I can try, but
je peux essayer.
Allez-y. It'll be radio silence.
Ah non,
silence radio.
Oui, oui, non, c'est un petit pop anglais, quoi. Bon, c'était pour lancer les pop news. Pop goes
the Emmy goes to Peter Dinklage, Game of Thrones.
Peter Dinklage, alias Tyrion Lannister, récompensé de l'Emmy du meilleur acteur dans un second rôle lors de la cérémonie qui s'est déroulée la nuit dernière. Game of Thrones a d'ailleurs obtenu le prix de la meilleure série dramatique. Et parmi nos chouchous, Jodie Comer, la géniale vilainelle de Killing Eve, a obtenu le titre de meilleure actrice dans une série dramatique. Catégorie comédie, c'est Phoebe Waller-Bridge qui rafle la mise. Meilleure série, meilleure actrice, meilleur scénario. Catégorie mini-série, Tchernobyl fait un triplé. Meilleure série limitée, scénario, réalisation. Et meilleur acteur pour Jarrell Jerome, absolument saisissant dans When They See Us.
Si vous voulez être à la pointe de la mode, suivez le guide, en l'occurrence le nôtre, Loïc Prigent, et ses 5 minutes de mode à ne pas manquer dès ce soir, et c'est encore lui qui en parle le mieux.
Paris est en ébullition, la Fashion Week est de retour, il y a des mannequins partout. Pour ne rien rater de l'événement le plus en vogue, je vous propose un compte-rendu à chaud tous les soirs de cette semaine totalement immanquable. Des coulisses au podium, du premier rang au détail des robes les plus folles dingues. Au plus près des créatrices, des créateurs, des mannequins et des personnalités les plus en vue, découvrez les tendances de fond et tout ce qu'il faut retenir de ce moment de pure folie.
5 minutes de mode, c'est dès ce soir sur TMC à 19h20.
La nouvelle reine est arrivée, elle s'appelle Olivia Colman, puisque c'est elle qui prend le relais dans The Crown pour la saison 3. Elle était déjà Queen Anne dans La Favorite, la voici Queen Elizabeth II.
Tous les employés de la poste sont ravis de ce nouveau profil, madame. Ils le considèrent comme un reflet élégant de la transition de sa majesté de jeune femme à...
vieille peau.
Et une souveraine établie. Mmh. Il n'y a que de minuscules changements.
De grands changements. Nous ne pouvons rien y changer. Il faut passer à autre chose.
Oui, la reine parle très bien français. Mise en ligne de The Crown le 17 novembre sur Netflix.
France Inter. Popopo. Antoine Decaune.
Oui, c'est moi, Charline.
Peter Dinklage.
Non, la reine d'Angleterre.
Ah non, vraiment pas.
Merci, Charline Natalco. Vous restez avec nous, cette spéciale Angleterre Pop continue dans Pop Pop Pop, mais comme il n'aurait échappé à personne que c'est aujourd'hui l'anniversaire d'un jeune artiste dont nous suivons attentivement le travail, occasion nous est enfin donnée de vous faire découvrir sa musique. Il s'appelle Bruce Springsteen, il fête ses 70 bougies, et on en profite pour lui rappeler qu'on l'aime plus que tout.
Had enough of heartbreaking pain. I had a little sweet spot for the rain. For the rain and skies of gray. Hello sunshine, won't you stay? No, I always liked my walking shoes, but you can get a little too fond of the blues. You walk too far, you walk away. Hello sunshine, won't you stay?
end up that way. Hello, sunshine, won't you stay?
Sunshine, Bruce Springsteen, dont on fête aujourd'hui les 70 ans.
Ben oui. C'est tard pour commencer 70 ans quand même,
oui,
non ?
Oui, 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 mais il va rattraper le temps perdu très vite, j'en suis sûr. Cet extrait de Western Stars, son dernier album. Vous écoutez Pop Pop Pop, l'émission de pop culture de France Inter, ou plutôt l'émission qui traite la culture, comme dirait Jonathan Coe. Et nous sommes toujours en compagnie de Jonathan Coe. Il vient de nous rejoindre, Benjamin Carl. Bonjour Benjamin.
Bonjour.
Carl. Vous êtes un Français anglophile. Laissez-moi vous présenter un Anglais francophile. Benjamin, Jonathan, Jonathan, Benjamin. Voilà, messieurs.
Enchanté.
Les présentations sont faites. Benjamin Carl, vous vous êtes fait connaître en 2014 hein, avec le documentaire Made in France. Un doc qui suivait votre vie pendant un an. Une année où vous ne consommiez que des produits français. Vous avez gardé des séquelles ?
Je me suis rendu compte pendant cette expérience surtout que j'étais français en fait, ouais. Et que j'avais beau aimer l'Angleterre pour le coup, par ma consommation et par le fait que je vis dans un pays qui fabrique encore quelques produits, même s'il fabrique
des bons
frigos
produits.
Et de bons produits, mm-hmm. J'avais une forme d'attachement liée à l'endroit où je vivais, mm-hmm. et je me suis rendu compte, et on me l'a rappelé aussi depuis, parce qu'on me demande souvent si ce que je porte est français ou si ma façon de vivre est toujours très française, mm-hmm. Que j'étais français, et là avec ce film là et le contexte lié à l'Angleterre en ce moment, il y avait l'idée de se dire est-ce qu'on est si français que ça ? Est-ce que ça suffit en fait d'être né en France pour être français, mmh. Ou si, comment on a grandi dans une espèce d'amour exotique pour le football club de Liverpool, ouais. Ou pour David Bowie, on est aussi un peu anglais culturellement, ouais. Et en fait ce documentaire-là que je viens de réaliser avait pour objectif de savoir si par la culture j'étais français ou anglais.
Jonathan Coe, ça vous pend au nez avec le Brexit, mais vous pourriez vivre un an en ne consommant que des produits anglais ?
Well, that's a nightmare scenario,
but it's the scenario cauchemardesque.
The scenario which we might be facing.
Mais c'est le scénario qui va peut-être bien arriver si jamais on quitte l'Union européenne sans deal. Les grands fans du Brexit disent quel problème ? On fera notre propre fromage, notre propre vin. Vous avez dû remarquer. J'ai bien remarqué que vous avez fait une blague sur le vin anglais, ok, au début de ce programme. Et je peux pas vraiment vous contester là-dessus.
Bon, vous pouvez toujours trouver refuge chez nous, je vous rassure. En 2019, Benjamin Carl, vous revenez avec un doc 50% français, 50% anglais, diffusé dans le cadre de la déclaration d'amour de Canal+ à l'Angleterre la semaine dernière. Bande annonce.
Les parties génitales que je dois piétiner appartiennent à des Anglais. Si je suis honnête, j'ai toujours aimé l'Angleterre. À 16 ans, j'ai découvert le rock et la pop anglaise. Ça a été une révélation. Et mon idole absolue, mon dieu, est anglais, il s'appelle David Bowie. Du coup, là, comme ça, je sais pas trop si j'ai envie d'aller jouer ce match. En fait, pour me décider, J'ai besoin de faire le point sur la relation entre le pays dans lequel je suis né et celui qui m'a toujours passionné. Sur ma relation avec la perfide Albion.
Meilleurs amis, ma relation avec la perfide Albion, donc un doc toujours disponible sur MyCanal.
Et le documentaire s'ouvre donc sur vous, Benjamin, dans un vestiaire de rugby pleinement équipé pour, je cite, « aller piétiner les parties génitales anglaises ». Comment est-ce que vous vous êtes retrouvé dans cette galère?
Ouais, c'est vrai que c'est un peu particulier, mais en fait, bon, il se trouve que je joue au rugby dans un club totalement amateur à Paris. Et dans notre pool, on a les British de Paris, donc une équipe d'expatriés anglais. Et c'est vrai que c'est un match que tous les ans, moi et mes coéquipiers, on attend parce que c'est l'équivalent de notre crunch, qui est la rencontre annuelle entre la France et l'Angleterre durant le tournoi Destination, et qui est la rencontre la plus attendue. Et bon, c'est vrai que dans ces moments-là, dans les vestiaires, au moment où on essaie un peu de se motiver, c'est vrai que des propos peuvent être un peu violents. Et en effet, il s'agit souvent de marcher sur les parties génitales de l'autre.
Il y a une vraie explication, hein, parce que vous allez jusqu'à dire dans le documentaire que le rugby a remplacé les batailles militaires.
Totalement. Ça paraît flagrant. Même quelque part, c'est vraiment un résidu, une sédimentation de. Sur mille ans, depuis le 1066, qui est la conquête de l'Angleterre par Guillaume le Conquérant, la France et l'Angleterre ont été à peu près en guerre pendant 250 ans. Ouais. Presque un quart de l'histoire commune. Et ça fait finalement peu de temps qu'on s'entend bien, en fait. Et du coup, c'est vrai que le rugby, quelque part, ça reste une forme de façon de se montrer que nos deux pays, nos deux nations et nos deux entités en tant que peuple existent.
Jonathan Coe, vous êtes d'accord avec cette idée? Le rugby a remplacé les batailles militaires pour régler les conflits entre nos deux pays?
Vous devez avoir raison, mais je trouve ce sujet tellement douloureux à discuter, et même en public et même en privé. J'ai fait mes études dans une école assez chic. Je suis arrivé à 11 ans, il fallait jouer du rugby et pas le football.
It may be hard for you to believe, looking at my athletic build now, but I was very athletic. I was very small and weedy.
J'étais tout petit, j'étais nerveux à cet âge, et donc on m'a mis vraiment au milieu de la mêlée avec ces gorilles qui étaient mes camarades, qui m'attrapaient par les parties les plus tendres de mon anatomie. Et depuis, je ne suis pas arrivé à réfléchir au rugby depuis.
Benjamin, vous êtes d'accord avec l'expression qui dit que le football est un sport de gentleman joué par des brutes, alors que le rugby est un sport de brutes joué par des gentlemen?
Je sais pas, parce que si vous allez dans le sud-ouest, il n'y a pas beaucoup de gentlemen qui jouent au rugby non plus.
Oh, attention à ce que vous dites là.
Non, mais c'est des gens très bien. Ouais. Mais c'est des gentlemen, je sais pas. Je pense que c'est les Anglais qui ont inventé ça pour se justifier.
Et Benjamin Carl, on réalise au fil de votre relation avec la perfide Albion qu'il semblerait que nous ayons plus d'affection pour nos voisins britons qu'eux en ont pour nous.
You want to ask me what I think of French people?
Yeah, I do.
What? It was two world wars, and we went through your country, right, to save the world, and we come back, we didn't get a thank you, and you still don't like us.
Grosso modo, hein, si j'ai bien compris, Harold ne me contredira pas, ils sont venus nous sauver deux fois pendant deux guerres mondiales et qu'ils n'ont toujours pas eu de merci, en fait.
Oui, c'est vrai.
Vous avez réussi à laver l'affront?
Mais on n'est pas très bon pour dire merci, peut-être. Mais ce que j'ai remarqué, c'est qu'en fait, les Anglais nous connaissent beaucoup mieux, nous, Français, que ce qu'on les connaît, eux, en fait. Et c'est peut-être assez évident, parce qu'on est leur seul voisin assez proche, et que nous, on pourrait avoir l'Italie, l'Espagne, même la Belgique, avec quel pays on a une relation assez forte. Mais eux nous connaissent beaucoup mieux, et du coup, nos clichés vont s'arrêter à la perfidie et à la nourriture, à ces choses-là. Eux, en fait, ont des relations et des visions beaucoup plus fines sur notre façon de nous comporter ou sur notre âme de Français, quoi.
Ben voilà un sujet tout à fait passionnant et un documentaire qui l'est tout autant. Il passe en ce moment sur
MyCanal. On peut le retrouver sur MyCanal en replay.
Exactement.
Et c'est votre œuvre, Benjamin. Nous vous en félicitons.
Merci.
Et rappelez-moi le titre.
Meilleurs ennemis, et ma relation avec la perfide Albion.
Voilà. Merci infiniment. On approche de l'heure de la fin de l'émission et c'est le moment pour moi d'aller chercher le dernier vinyle. Et pour me rendre à ma discothèque, et ben maintenant j'ai un ascenseur, je l'appelle. Oula, il y a du monde là-dedans. Mais vous êtes au moins 15, les gars. Et tous en short, et tatoués en plus. Je savais pas que c'était de la Gay Pride. Ah, les All Blacks. Ah ben oui, je suis bête, c'est la Coupe du Monde de rugby. Quoi, qu'est-ce que vous dites? Quoi? Les petites querelles franco-anglaises? Vous vous en battez les steaks? Ah oui, d'accord, et l'équipe de France, vous allez lui laminer sa gueule. Enfin, si toutefois vous la rencontrez, et il n'y a pas de chance, c'est ça? Quoi? Et les Anglais, vous allez en faire du pudding? Hein? Et moi? Moi qui suis? Ah ben, je joue pas au rugby, moi, hein. Et en plus, je suis suisse. Clash, Train in Vain dans Pop 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 sur France Inter. C'est un morceau de 79, extrait d'album London Calling pour terminer cette spéciale Angleterre Pop. Voilà, merci Jonathan Coe. Le cœur de l'Angleterre, c'est édité chez Gallimard. C'est plus que chaudement recommandé par Pop Pop Pop. Merci de votre
visite. Merci beaucoup.
Merci Benjamin Karl. Meilleurs amis, ma relation avec la perfide Albion, c'est à retrouver sur MyCanal.
Merci.
Merci d'être venu.
Merci à
toute l'équipe de Pop Pop Pop. Mais qu'est-ce qui se passe? Ah, mais je vois la jeune Belge qui arrive demain dans Pop Pop Pop. Anaïs de Moustier et Breur Gunnar Johnson qui sera en live sur notre scène mythique. Mais avant demain, si vous avez aimé l'émission, retrouvez-la sur franceinter.fr. Si vous êtes un Jones 3.0, un Yeuv ou une Yeuvesse à la pointe, suivez-nous. Plutôt comme dit la reine d'Angleterre à la fin de ses tutos make-up sur YouTube.
Abonnez-vous à notre podcast.
Et suivez-nous sur les internets, comme disent les millennials, 3615 pop-pop-pop sur Instagram et Twitter.